Toulon, sur la trace des champions. Rugby Club Toulonnais 1992-2022, les 30 ans d'un titre impensable. Un podcast de la rédaction des sports de Varmatin.
Je vous invite à écouter l'ovation qui salue l'entrée dans le stade des deux capitaines.
Il était avec eux ce soir-là, levant le bouclier de Brennus au ciel de Paris. Un soir de finale du championnat de France. Lui, c'est Jean-Claude Balator, entraîneur du RCT, ancien pilier de Toulon. Lors de cette saison périlleuse, il a la lourde tâche de succéder à Daniel Herrero. L'homme diffère en tout point de son prédécesseur, son discours, sa méthode. Les débuts sont houleux, mais le capitaine tient la barre. Le navire tangue, lui, continue de faire confiance aux jeunes. Cet homme intransigeant et rigoureux finit par trouver la formule gagnante. Jean-Claude Balator nous a reçus chez lui, avec les souvenirs de cette folle saison bien gravés dans la tête. Il est au micro de Fabrice Michelier. Jean-Claude Balator, un entraîneur implacable, sort de l'ombre.
Bon, Jean-Claude, déjà merci de nous recevoir. 30 ans après, quand on évoque 1992, quelle est la première image qui vous revient à l'esprit ?
Je crois qu'il y en a deux d'images qui me reviennent à l'esprit. Eric, qui vient me voir les 10 dernières minutes du match sur le banc, à mes côtés, on se tient la main et on se lâche au coup de sifflet d'Alain Sécon. L'arbitre aussi, si vous voulez, je fais un petit commentaire. C'est devenu un ami, alors que c'était un bon arbitre, mais bon, j'avais pas de relation particulière, si ce n'est que avant le match. Il vient nous voir et il me dit « Bonjour Jean-Claude, vous n'avez pas de problème ?» Alors je lui garde la main, je le regarde et je lui dis « Oui, toi, est-ce que je peux te voir ?» Je ne tolérerai que le droit dans la règle. S'il y a une blancomania quelconque dans l'interprétation de la règle, il y aura des conséquences terribles. Je vous le dis parce que j'ai perdu des finales. C'est là, je veux avoir mon droit. Alors il me dit, je suis un peu surpris, mais pas venant de ta part. Je voulais te dire qu'avant d'être un arbitre, je suis un homme.
Et parce que cette finale, finalement, tout le monde veut que ce soit Biarritz qui la gagne.
Ben, bien sûr. Moi, je n'étais pas contre Blanco parce que j'aime bien Serge. Mais bon... Et à un moment donné, on mène 19 à 3 ou 6. Et il y a un regroupement côté droit dans le camp de Toulon. Blanco arrive, saute par-dessus le regroupement, dépasse, il y a largement pénalité. Le ballon sort pour Biarritz, 3 passes et il nous marque un essai. 19 à 14, ça fait... Je vais me mettre au centre du terrain et je le regarde les bras croisés comme ça. Il suit mon regard, il évite pas et il fait une gestion de père de famille où le jeu ne se déroule pas et on gagne 19 à 14. Le match est bloqué, mêlé, pénalité d'un côté, pénalité de l'autre. Enfin, il gère son match. En plus, c'est un gars très, très intelligent avec lequel nous sommes devenus amis ce jour-là. Il nous fait 10 minutes de père de famille, quoi. Vous savez, quand les arbitres ne veulent pas de risque ou quoi, bon, il peut y avoir une interception, on peut perdre, hein, ça c'est... Mais sinon, le jeu quasiment arrêté, quoi. Le mêlé, on refait, bon. Il fait les 10 dernières minutes pour faire passer le temps. Et nous, et lui.
Donc là, c'est l'apothéose de la saison. On va revenir un petit peu chronologiquement.
Ok.
Vous, c'est votre première année sur le banc du RCT.
Tout à fait.
Alors déjà, ben voilà, comment se passe votre arrivée ? Est-ce que c'est André qui vous contacte ? Voilà.
Tout à fait. Avec André, on avait une longue histoire déjà. On était partis à Nice ensemble en 71. Après la finale de 71, j'ai fait partie des joueurs qui l'ont suivi. Et c'est lui aussi qui nous suit, parce que moi je devais partir à Narbonne, où Jean Carrère, l'ancien entraîneur de Toulon, ancien maire d'Argelès, ancien entraîneur de Narbonne, voulait me récupérer à Narbonne. Et j'avais décidé de rester avec mes collègues, les 10 joueurs qui étaient décidés de partir, qui avaient décidé de partir. J'avais pas voulu donner suite à Narbonne, pas plus que j'avais donné une suite à M. Bardou, qui était le président de Grolet, qui à l'époque était une grosse écurie du... Je ne sais plus si c'était top 14, première division.
Donc 20 ans après, 71, vous retrouvez donc André.
Tout à fait.
Lui pensait peut-être travailler
André,
avec Daniel.
Voilà. Comment ?
Lui pensait peut-être travailler avec son frère, au départ.
Je ne veux pas rentrer dans cela, mais posez-lui la question, vous lui avez peut-être posé. Je pense que les deux frères n'étaient pas au top de l'entente.
Donc vous, voilà, vous arrivez justement après Daniel, donc, oui. Qui a marqué quand même une étape importante du club.
Oui, mais j'ai déjà entraîné Nice quand même.
Bien sûr.
J'ai entraîné Nice quand André s'arrête à Nice, qui revient ici pour se présenter aux élections municipales. Je ne sais pas si vous le savez, dans les années 76 ou 77. Voilà, donc il revient à Toulon. Moi, je suis à Nice et je le prends très mal. Très très mal, parce qu'on a sacrifié notre vie. Je suis allé à Nice 110 fois par an pendant 20 ans. J'ai fait plus de 20 fois le tour de la Terre pour aller faire du rugby à Nice. Alors après, je crois que j'avais gagné la rémission de mon péché, si c'était un péché véniel ou mortel, je ne sais pas. Il n'était pas question que André Herrero était redevenu l'entraîneur de Toulon. Daniel Herrero était revenu et j'estimais que je pouvais prétendre à cette mission vu que j'avais déjà fait une finale avec Nice. Vous savez, les entraîneurs de première division qui ont fait deux finales, dont une gagnée et gagnée deux fois le Dumanoir entre joueur et entraîneur. Il n'y en a pas beaucoup que je peux vous citer. Il y a Couturas qui l'a fait avec Agen et Bourgoin. Il y a Galtier qui l'a fait avec Montpellier et le Stade français. Laporte qui l'a fait avec le Stade français et Toulon. Et Jean-Claude Balator qui l'avait fait avec Nice et Toulon. Vous me permettrez juste de dire que les clubs n'étaient pas armés d'une manière équivalente, hein, puisque moi, en 92, je compose avec 5 juniors en effectif. C'est pas... je vous les cite, vous les connaissez. Il y en a un que vous connaissez peut-être pas. Si je vous dis qu'il y avait 5 juniors dans l'effectif...
Il y a Tesser, Delegue, de Rougemont.
Orsoni,
oui. Et le cinquième.
Igor Juzon. Un joueur qui m'a posé un problème de conscience. Parce que je pouvais pas mettre que des juniors. Et j'ai été obligé de le retirer un peu du groupe. Je pouvais plus le faire travailler, sinon j'avais... C'est des baby-joueurs, quoi.
Du coup, voilà, donc vous arrivez à Toulon, vous connaissez le contexte du club qui est, voilà, un peu en difficulté financière. Vous devez composer avec des jeunes.
Vous savez, avec les Herreros, ça a toujours été des locomotives, André surtout. Et j'ai toujours voulu copier, faire comme lui. Daniel était devenu l'entraîneur en 84 ou 85. Moi, j'avais été entraîneur depuis 1976 à Nice. Donc, j'estimais que j'avais fait mes preuves et que j'avais rien à envier à personne. Voilà, c'était un peu mon caractère. Je voulais absolument entraîner parce que André avait entraîné, Daniel avait entraîné. Il n'était pas question que j'ai des complexes envers personne. Ça a toujours été ma force et un peu ma faiblesse. Parce qu'on est obligé de mettre de l'affectif, on est obligé de, Et j'avais tellement envie de réussir. Et on arrive à la fameuse année où je prends l'entraînement de Toulon, où au début, ça ne se passe pas. Daniel Herrero s'est arrêté avec le palmarès qui s'était construit, les joueurs qu'il y avait. Recruté Orso, Trémouille, Melville... C'est quand même un bon renfort. Vous pouvez plus jouer le titre de champion que la descente en deuxième division. Voilà, tout ce que je peux dire.
Justement, comment vous êtes accueilli par ce vestiaire, finalement
je les connaissais, parce que, premièrement, j'étais CTR, alors conseiller technique régional de rugby. Je m'occupais de toutes les sélections, de toutes les écoles de rugby, du comité, et j'avais un pied au Rugby Club Toulonnais, quoi. Voilà, je les connais tous, je suis bien accueilli, mais bon, après, les résultats tardent à venir. On fait une année un peu difficile, on se qualifie au dernier match aussi.
Ce fameux barrage, soit on montait, soit on descendait, c'était terrible.
Tout à fait. Donc c'est un match qui me laissera des séquelles, où Eric Champ a été un grand mec, sur tous les sens du terme. On a réussi à écrabouiller Aurillac, le vieux stade Sabaté à Montpellier. Ce jour-là, ben, c'est parti, et je vous dis, j'avais dit à André, le problème c'est toi qui es là, tu ne pourras plus me lever.
Comment expliquez-vous cette saison, finalement, aux deux visages, avec cette première saison partie compliquée?
Il y avait eu des départs dans l'équipe de Toulon. Christophe Delot était parti, Aubin Weber était arrivé, ils n'étaient pas qualifiés. Francis Laglaise, qu'on avait recruté pour nous mettre des buts de 60 mètres, il nous en avait mis quelques-uns, mais il en avait manqué beaucoup. Ça correspondait pas ce qu'on attendait, quoi. Donc, on a baissé la tête encore plus, un peu pour montrer qu'on était des bons avant, et puis un peu d'attendre de faire rédemption.
Voilà. Je crois qu'il y a un match à Colomiers qui est assez compliqué,
oui,
pour vous.
Oui, un match à Colomiers où on est dominé. On s'en sort pas, et là, je frise l'exécution, quoi. Mais bon, je le savais, c'était pas une surprise. J'avais quand même des anciens qui m'entouraient, Roger Fabien et Noël Vadella, qui étaient des collègues de la finale, qui m'ont considérablement aidé, et André aussi, qui, bon, il avait plus envie que je réussisse que ce que... il me coupe la tête, quoi. Voilà. Hein,
bon. Et donc, bon, il y a ce barrage, Eric Champ nous disait qu'il se souvenait encore aujourd'hui des expressions, des visages, à côté de qui il était assis. Il se souvient de votre visage, de celui d'André. Vous, c'est pareil, c'est un moment qui est dans votre tête en vous disant, ce match, il est...
Je revois le stade Sabaté, où je savais que moi, c'était à la fin du match, où l'aventure rebondissait, où j'arrêtais l'entraînement, quoi. Hein. J'arrêtais l'entraînement, quoi. Pendant le match, je savais que si je ne gagnais pas Aurillac, j'arrêtais d'entraîner et Toulon et d'autres, parce que j'avais d'autres équipes qui m'avaient contacté, notamment Clermont-Ferrand, où je devais être conseiller technique au cabinet de M. Giscard d'Estaing, président du conseil régional d'Auvergne.
Et donc cette victoire, est-ce que là, au coup de sifflet final, vous vous dites maintenant, tout peut arriver?
C'est tout du bonus. On fait un très bon match à Avignon contre Nîmes. Et là, je sens que l'équipe repart, où on est le dimanche d'après au Vélodrome, où on maltraite Béziers. On joue tard dans un match très, très particulier. Je vous dis, on décide avec Philippe de se donner la main les 10 dernières minutes. Sur le bord de touche, l'arbitre, le délégué, ils viennent vouloir nous faire asseoir, on les jette, quoi, à leur dire des grands, vous pouvez tolérer ça et vous n'aurez pas de problèmes ni majeurs ni mineurs, quoi. Voilà.
Ce match à Tarbes, justement, se termine sur un match nul. Vous, j'imagine que vous avez en tête le règlement, mais est-ce que
moi, je connais le règlement.
Est-ce que coup de sifflet, vos hommes ont conscience qu'ils sont qualifiés ou pas?
Je leur dis, mais ils ne me croyaient pas. Ils croyaient que je leur dis ça pour les motiver.
Parce que, donc, on rappelle le règlement, vous marquez plus d'essais que votre
tout
adversaire.
Tout à fait. Voilà. Par contre, que je sais qu'il ne connaît pas le règlement, c'est Philippe Dendras.
Il était stressé, beaucoup plus.
Il me dit, mais comment on va faire? On va faire les tirs au but. Il me dit, tirs au but.
Et donc, à partir de quel moment vous avez estimé que vos hommes s'étaient libérés, finalement, de toute pression?
De ce match-là, je crois. Le match d'Aurillac, c'est... Ils sont devenus une équipe, puis après, on fait des résultats où on bat Béziers à Marseille après avoir maltraité Nîmes. Mais ça avait été un match où Nîmes, il se qualifiait premier. Hein. Vous savez que c'était le premier contre le 32e. Et là, déjà content d'être sur le match de le 16e de finale. Ça voulait dire qu'on restait en première division, ça voulait dire beaucoup de choses, quoi, et que finalement, le travail qu'on avait fait, il était validé.
Cette saison, elle est marquée aussi, vous le disiez tout à l'heure, par la présence des jeunes. À quel moment vous avez estimé qu'ils étaient devenus importants dans ce groupe et vous leur avez donné, pas les clés du camion, mais pleine confiance?
Petit à petit, quand on a fait l'osmose entre les jeunes et les anciens. J'ai toujours eu confiance en l'équipe. De mettre les jeunes, ça n'avait pas été un problème pour moi, parce que j'avais joué jeune, donc je savais que si on se qualifiait, qu'on avait le bonheur de se qualifier, on pouvait faire quelque chose. Et bon, maintenant, être champion de France... J'étais un peu prétentieux, un peu tout ce qu'on voulait bien dire sur moi, parce que je m'en foutais complètement. Oui, parce que là, j'ai passé une période où j'étais pas la pop star à Toulon. Hein. Mais enfin, après, les gens se sont bien rattrapés, même encore maintenant, je suis encore hier au stade, des anciens quoi, qui sont très heureux de me saluer, comme moi d'ailleurs. Et...
Justement, dans ces périodes compliquées où c'était compliqué pour vous, et Eric nous disait que bon, lui, il avait pris la responsabilité aussi d'amener les joueurs sur des réunions,
sur des concerts. Les week-ends, quand il n'y avait pas de match, on faisait souvent, pendant des années, on était allé courir à la Capte. Et là, Eric habitait à Cuers. On allait le retrouver à Cuers et on allait faire une préparation où les préparations étaient quand même assez solides. Hein. J'ai toujours eu cette capacité, cette prétention à imposer des entraînements un peu plus... Ça, je le tenais un peu d'André aussi, qui... lui, son baromètre, c'était son corps.
C'est pas évident pour les autres, alors.
Il fallait suivre. Et moi, comme je n'avais pas la prétention d'avoir la résistance d'André, on avait préparateur physique dans les années 70, Toulon, Lucien Miéro, qui était prof de PS, qui a été major de l'INSEP au concours de sortie, et qui nous avait aidés tous, plus ou moins. Et quand j'ai entraîné l'équipe, Lucien, je m'appuyais sur lui pour prendre des conseils sur la préparation, l'évolution de la préparation physique. Donc, j'ai toujours eu une préparation un peu à la pointe du progrès, où je travaillais aussi avec un ancien élève ami Euro, Alex Desjardins, qui était le préparateur physique, quoi, hein, voilà, donc on faisait des entraînements assez haut de gamme. Pas au niveau de la qualité, parce que je ne me permettrais pas, mais au niveau de l'intensité.
on connaissait le Toulon rugueux, c'est un peu la réputation qui colle à ce club et à cette ville. Mais ces Minots, finalement, qui débarquent, eux, arrivent aussi avec cette volonté de jouer, peut-être un peu plus de fantaisie. Comment vous intégrez ça, finalement, à vos systèmes de jeu et
Mais moi, mon système de jeu, c'était toujours le même, la conquête, avec une tendresse particulière pour la mêlée fermée. Et surtout, la conquête, gain du ballon, occupation du terrain chez l'adversaire. S'il fallait taper 10 fois pour aller jouer chez l'adversaire, on tapait 10 fois. Puis il n'était pas question d'oublier, d'appliquer les consignes reçues. Voilà, ça, c'était un peu le cachet de ma personnalité un petit peu, quoi.
Et voilà. C'était facile à faire passer à ces jeunes, justement, ce message-là, qui, eux, peut-être parlent en insouciance.
Ils n'avaient pas trop d'expérience, donc, si ce n'est ce qu'on leur avait dit sur les anciens et sur moi, et ils étaient très, très malléables, quoi. Ils se laissaient bien faire et ils exécutaient ce qu'on leur demandait avec beaucoup de conviction, de précision, d'application.
Il y avait, dans votre parcours sur la phase finale, il y a quasiment eu des drops à chaque match qui ont été victorieux. Et ça, c'était quelque chose
de
travaillé.
De jouer au pied, ce n'était pas interdit.
Et c'est ce qui vous a permis aussi de gagner des matchs importants. Alors, pour les plus jeunes d'entre nous, est-ce qu'à l'époque, c'était finalement coutumier, tout le monde passait des drops, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui? Ou vous, c'était vraiment votre façon de fonctionner?
Nous,
aussi
on était très portés sur ce style d'exercice. On avait beaucoup de réussite parce qu'on avait des droppeurs, que ce soit... avant, il y avait eu Christophe Delo à Toulon. Après, on a eu Aubin Weber. On a eu Yann Delegue. Bon, c'était... Mais bon, Yann Delegue, il avait 18 ans. Tesser, il vient jouer le 16e ou quoi. Lendemain, il passe le bac. Des trucs de fou, quoi. De fou. Mais on dépasse ça et on arrive... franchement, c'est peut-être un peu prétentieux ce que je vais dire, mais bon, je prends le risque et j'ai confiance dans votre analyse. Je sentais mon équipe imbattable. Ça vous fait une impression. J'avais eu un peu cette impression à Nice quand on avait des paquets d'avant de haut niveau. Hein, c'est... Voilà.
Et parce qu'elle avait traversé aussi, finalement.
Qu'elle sortait de la difficulté. Hein, et la difficulté qu'on a traversée a été récompensée par le résultat et les résultats. Mais bon, on n'avait aucune garantie, hein, parce que tout le monde veut être champion et tout le monde essaye de l'être et il n'y en a qu'un qui... qui est désigné.
Justement, pour cette finale et même avant, vous êtes privé de votre capitaine et joueur emblématique Eric Champ. Comment vous embrassez la chose? Est-ce que c'est un coup dur déjà dans un premier temps? Est-ce qu'après, ensuite, c'est un levier? Est-ce que vous en servez? Comment ça s'est passé?
Pour moi, c'est vraiment une amputation. Pendant quelques temps, je réagis pas, je prends du recul. Mais c'est terrible, quoi. En plus, Eric, c'est beaucoup de ma vie, parce que sa grand-mère était sur le cours Lafayette avec mes grands-parents. On avait quand même des échanges, et puis je l'ai eu en minime quand j'étais CTR, donc j'aurais jamais pensé qu'à ce moment-là de la saison, à ce moment-là de ma carrière, où c'est là où j'en avais le plus besoin, et ils puissent pas jouer, quoi. Hein. Et puis...
Pour revenir à Eric, donc il se fait sanctionner en challenge pour une altercation avec Benazi. La sanction est quand même assez lourde. Est-ce que vous la comprenez ou...
Je ne la comprends pas pour deux raisons. Parce que Toulon a été exemplaire toute l'année. C'est un peu surpayé par rapport à la qualité de la faute. Si jamais ce jour-là, Agen avait battu Toulon, je ne sais pas si la sanction aurait été identique. Je pose la question.
Ça nous ramène à ce rugby et à cette époque où aujourd'hui c'est quand même le cas, où Toulon était toujours un peu le mal aimé.
Tout à fait.
Et est-ce que vous, finalement, vous construisiez aussi là-dessus?
Et moi qui étais, bon, CTR pendant des années, M. Ferras ne voulait plus que les CTR entraînent. Et le portrait type du CTR, c'était moi. Voilà. Alors que j'avais pris la suite d'André à Nice, où c'était pas une terre de rugby, c'était pas encore gagné, et avec Nice j'ai fait deux demi-finales, j'ai fait une finale où on n'a pas été champion, on a gagné le Du Manoir, et à l'époque je sais pas si vous connaissiez le Du Manoir, gagner le Du Manoir c'était un peu l'équivalent de la Coupe d'Europe des challenges.
Donc, en l'absence d'Éric, c'est Pierre Trémouille qui devient le capitaine. Est-ce que c'est un choix naturel pour vous? Comment ça s'est passé?
Oui, Pierre Trémouille était le leader devant, derrière. Éric était capitaine indiscutable, ça c'était sûr. Mais Pierre Trémouille, on joue avec Nice. Nice, je ne sais plus contre qui. Je crois que c'était Clermont-Ferrand à Béziers, à Soclières. Pendant le match, ils viennent et ils m'appellent sur le banc. « Monsieur Malator !» Puis je me vois un gars qui saute à la talanquière. Et il vient me voir, il me dit « Je suis Pierre Trémouille ». Alors je le reconnais puisqu'il jouait dans l'équipe de France militaire. Et je dis « Mais je te reconnais, mais bon ». Il me dit « Oh, je veux vous voir, je veux venir jouer à Toulon ». Mais j'ai dit « On se voit après le match et... ». Et après le match, on a donné une suite plus que favorable. Pierre, c'était un gars un peu plus en retrait parce qu'il n'était pas toulonnais, parce qu'il n'était pas, il n'avait pas la même jovialité, la même expansion. Mais c'était un joueur remarquable, capable de jouer arrière et trois quarts centre d'une manière de très haut niveau. Et physiquement, c'était... C'est un mec bien et c'est un joueur qui ne m'a jamais déçu. Jamais. Voilà. Et j'ai toujours eu beaucoup d'admiration et de l'affection pour lui et beaucoup de remerciements parce que je sais qu'il n'avait pas la... C'était pas Éric Champ parce qu'Éric était quand même un cas particulier et... Hier, au stade, il y avait Gallion devant, Éric à côté. Je me suis dit, tu as quand même une belle vie dans les stades parce que tu ne fais pas donner à tout le monde, quoi. Voilà. Et encore maintenant, j'apprécie. Voilà.
Quel rôle vous lui donnez à Éric, du coup, qui ne peut plus participer au terrain? Est-ce qu'il garde un rôle dans le vestiaire
Il vient avec nous quand il peut et quand il veut parce que c'était la période où... professionnellement, il se construisait une belle carrière de haut niveau et je sais pas s'il en a parlé, on échangeait beaucoup où je lui disais, moi j'ai besoin de toi pour 12 à 15 matchs, mais sur ces 12 ou ces 15 matchs dans l'année, je veux pas ton cousin. Non, c'est toi, Éric Champ. Et j'ai jamais eu son cousin.
En finale, vous ne l'avez pas, donc il faut quand même préparer ce match face à...
Il est là avec nous.
Face à Serge Blanco, le fameux
Julien. Il est là avec nous. Il est là avec nous et il est plus toulonnais que toute l'équipe réunie, quoi.
C'est un levier pour vous de dire au garçon, offrez-lui le bouclier?
Je ne lui ai pas dit ça parce que je ne voulais pas personnaliser. Pierre Trémouille reprend le capitanat avec beaucoup d'humilité et de régularité. On aurait dit qu'il n'avait jamais abandonné. C'était bien. Franchement, tout le monde était au rendez-vous en même temps. Alors, est-ce que c'est le travail qui avait été fait ou est-ce que c'est un concours de circonstances? On va dire qu'il y avait probablement un peu les deux.
Est-ce que vous étiez un adepte des discours dans les vestiaires? Et si oui, lequel vous avez tenu à vos hommes au Parc des Princes ce jour-là?
Je me rappelle, dans les vestiaires, j'étais capable d'osser le ton. Un jour, on simulait toujours une mêlée, ça et tout. Il m'avait pendu sur un porte-manteau. En reculant Je me mettais contre eux et tout, chaud, ils m'avaient tout, tellement qu'ils étaient prêts, quoi. Quand je me suis retrouvé sur le porte-manteau, j'ai pensé qu'ils étaient prêts. Voilà.
Cette finale, donc, vous nous avez raconté la fin tout à l'heure avec Eric Champ, mais comment vous la vivez dès le départ? On sait que c'est le dernier match de Blanco, il y a cette fameuse histoire où Patrice Tesser porte le bonsaï,
le bonsaï à Serge.
Voilà, donc comment vous vivez tout ça
Mais moi déjà, le bonsaï...
Pas fan.
Non, j'étais. S'il avait fallu piétiner Blanco pour gagner, je le piétinais. Hein. Ça, c'est. J'ai des états d'âme. Autant je pouvais avoir beaucoup d'états d'âme que pour gagner, j'avais besoin de mon ballon, de mes gains, d'avancer en mêlée. On avait surtout une mêlée atomique, quoi. Hein. Atomique. Depuis, j'ai jamais vu, même en club, l'équivalent. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos de la finale 92, mais Hondarts, tous les Basques, ils se font défoncer. Défoncer, voilà. Et,
c'est justement sur ces phases de mêlée que vous comprenez que les choses vont bien tourner pour vous.
Tout à fait.
C'est là que vous percevez ça rapidement, finalement, dans le match ou pas?
Ça faisait plusieurs matchs qu'on enchaînait avec une mêlée, je vous dis, haut de gamme, quoi. Ou en club, je ne me rappelle pas avoir eu des matchs avec... une année avec Nice, je perds à Bordeaux contre Agen en demi-finale, je crois. En mêlée, on les fracasse, quoi. On les fracasse. Ça vous donne confiance dans votre façon de travailler. Mais ça fait du travail. Hein. Sur la mêlée, je vais vous dire, on faisait des aides. En partie, on avait un poussoir où les gars, ils traversaient le terrain en poussant le poussoir. C'était assez copieux comme menu et assez remarquable comme résultat.
Les coups de sifflet de l'arbitre retentissent pour siffler la fin du match. Et qu'est-ce qui, la première image qui vient, c'est quoi? C'est la revanche pour cette finale perdue de 71, entre guillemets, que vous n'avez pas pu vous souvenir comme joueur?
Non, ou... j'ai pas pensé à 71, j'ai pensé au plaisir que les gars prenaient, j'étais heureux pour eux et pour moi d'avoir réussi mon pari.
Sacré pari.
Parce que c'était un sacré pari. Je me rappelle qu'il y a 3 mois, à Colomiers, les gens voulaient m'exécuter. Vous m'exécuterez une autre année. Hein. Voilà. Et quand on remonte, je prends le bouclier. Et je le donne à André. Les joueurs très mouillent prennent le bouclier de la part d'Eric, parce qu'on avait demandé à Eric d'aller chercher ce qui était assez exceptionnel, mais les joueurs avaient souhaité, donc moi je l'ai validé. Et quand je donne le bouclier à André, c'est pour solde de tout ce que tu m'as donné. Bien. Et Dieu sait s'il m'en a donné. Il m'a fait confiance à 20 ans à un poste. J'ai fait un quart de finale du championnat en 68, comme je vous disais, contre Grenoble. Je n'avais jamais joué pilier. C'était un quart de finale où Toulon, ça faisait depuis 48, ils n'avaient pas fait une huitième. Eh bien, on fait ça et c'est André qui me permet de le faire et de lui donner le bouclier, ça, c'est un truc énorme, quoi. Et c'est comme quand Eric me prend la main à 5 minutes de la fin ou 10 minutes de la fin et il vient sur le banc avec moi.
Après, comment se passe le retour au vestiaire? Là, dans l'intimité du vestiaire, c'est...
Je vais vous dire un truc. Je suis un peu particulier. Quand on a fait ça, les joueurs montaient, les joueurs sont en train de faire un tour de terrain. Moi, je fais un demi-tour. Je vais jusqu'au côté... On passe devant le côté toulonnais et on va du côté de Biarritz, au champ de Biarritz. Et après, je rentre au vestiaire tout seul. Les joueurs rentrent un quart d'heure après, tout ça et tout. Je suis en blazer, cravate. Mais qu'est-ce que tu fais comme ça ? Ben, je vous attends, comme d'hab. Voilà, j'étais prêt, je n'ai pas sauté, je suis pas... Ah, j'ai appelé mon épouse.
Vous l'avez savouré quand même ?
Comment ?
Vous l'avez savouré ?
Ah oui, ça, oui. C'était ma façon à moi. Prendre la douche au Parc des Princes, être champion de France, sans témoin, quoi. Je suis seul. Et le premier qui arrive, c'est Jobert, je crois. Et, qu'est-ce que tu fais là ? Mais je vous attends comme d'habitude. Ah, t'es fou. Voilà, ils m'ont envoyé, pas un litre d'eau, mais j'avais le blazer un peu humide quand même.
Et après, il y a ce retour à Toulon avec effervescence.
Mais ça, j'avais connu le retour de 68, le retour de... En 68, on a aussi un bel hommage. Hein. On perd un match où on ne le rejoue pas parce qu'on fait 9-9 et ils mettent le lourd de vainqueur au bénéfice des essais. C'est pour ça que quand on bat Tarbes, je ne laisse pas une larme. Quoi, hein. Nous, on a perdu le titre de champion, comme ça. Voilà.
On sait que cette ville n'est pas tendre. Dans la saison, ça a été compliqué pour tout le monde, j'imagine, par le contexte toulonnais. Et là, de revenir et de voir cette liesse, c'est Toulon finalement dans...
C'est Toulon dans sa première expression, quoi. Toulon est capable de ça, Toulon méritait ça, c'était des...
Malheureusement, dans cette belle aventure, aujourd'hui, il manquera un homme, c'est Éric Melville.
Tout à fait.
Quelle place il occupait pour vous, en tant qu'homme et en tant que joueur ?
En tant qu'homme, quelqu'un qu'il fallait connaître, je m'étais un peu accroché avec lui, parce que si Éric n'avait pas été suspendu, il aurait pu jouer deuxième ligne.
Ça ne lui plaisait pas forcément.
Et ça ne lui plaisait pas forcément. Et quand j'avais décidé quelque chose... Donc c'était un peu... Mais après, c'était un homme adorable, c'était un exemple. Je vous cite un exemple à Bourgoin, je crois que c'est... Il avait des problèmes de dos ou quoi. Non, je reste avec mes copains, hein. J'assiste à l'échauffement. Hein. Il était par terre, hein. Et les joueurs... Il sautait de part et d'autre de Melville à l'échauffement dans le vestiaire. C'était Barabbas, puisque moi je l'appelais Barabbas, du nom du compagnon évangélique de Jésus, qui était un brigand, un gangster, mais qui était... et c'était Barabbas.
En anecdote un peu plus joyeuse, beaucoup de vos hommes nous ont raconté la même anecdote sans qu'ils se concertent. On leur dit, est-ce qu'il y a une anecdote que vous n'avez jamais racontée ? Ils nous disent, alors il y a une préparation de match, alors ils ne sont pas tous d'accord sur le match. Hein. Ils ont fait un repas, tous ensemble, et puis il y a ces deux Rougemont qui arrivent et qui fait une blague à Éric Chambre, qui lui dit, c'est la mère à Toto qui a 3 enfants, pif paf, et pouf, apparemment. Et ça fait mourir de rire tout le monde, et vous, il paraît que ça vous rend fou. Vous en souvenez ?
Parce que c'est pas... Il me semble, parce que, plus de Rougemont... Et il n'était pas encore... le rugby l'a construit. Et à cette époque-là, il était un peu primaire, petit primaire. Il parlait fort, il riait souvent. On faisait un truc, du coup, il se mettait à rire. On l'a canalisé, quoi. Et c'était un peu dans cette démarche... où il était capable d'excès, quoi. Il ne savait pas quand il fallait s'arrêter. Comme il trouvait que c'était marrant de faire rire les copains, mais il y avait des moments où on devait sourire, rire, s'éclater s'il fallait, mais 10 secondes après, c'était stop. Hein.
C'était aussi révélateur finalement de l'insouciance de ces jeunes, finalement.
Oui, tout à fait. C'est un peu ce qui nous a apporté quelque chose. Il rentre contre Pascal Ondars, il a pas 20 ans, quoi. Hein, mais les gens, ils se rendent compte que Orsoni, il a 20 ans, De Rougemont, il a 20 ans, Juson, il a 20 ans, Delegue en a 19, et Tesser en a 19. Tesser, le lendemain, il passe le bac, ou le lundi. C'est des situations un peu particulières.
Les parents de Tesser, vous les avez eu au téléphone, parce qu'il paraît qu'ils étaient plus d'accord pour qu'il passe son bac qu'il joue la finale de top 14 de Rose.
Et bon, c'était normal, hein, mais j'ai essayé de l'amener à ce qu'il soit prêt à passer son bac et à gagner la finale du top 14. C'était des bons garçons. Franchement, on avait réussi, après le groupe de Daniel, les groupes se construisent un petit peu dans la difficulté. Et nous, ce match de Colomiers nous a fait gagner des étapes parce que, bon, j'étais prêt à tout, y compris à partir, quoi.
Aujourd'hui, quel rapport vous entretenez avec l'ensemble du groupe, c'est compliqué, j'imagine, mais avec la plupart de ces garçons, c'est...
Très bon. Très bon. Franchement, j'ai absolument aucun problème avec personne. Le seul qui me pose petit problème de proximité, c'est Roux. Voilà, parce que je ne lui ai pas pardonné de s'être fait expulser en demi-finale contre Castres.
En tout cas, merci Jean-Claude d'avoir ouvert tous ces souvenirs pour nous.
Ben voilà,
joyeux 30 ans de ce bouclier.
Alors. Merci beaucoup.
Rugby Club Toulonnais, 1992-2022, les 30 ans d'un titre impensable avec Jean-Claude Ballator, un entraîneur implacable sort de l'ombre.
Cette victoire à laquelle personne ne croyait, celle des genoux de l'Université de Besagne.
Un épisode chaque vendredi pendant 10 semaines.
J'imagine que ça doit être du délire sous la rade.
Un podcast de la rédaction des sports de Varmattan, Fabrice Michelier, Pierrick Illy-Cruffinati, Olivier Buisson avec Sonia Bonin.